Dimanche dernier, nous avons entendu une édification de la part de Rodolphe qui nous a surtout dit, voilà, nous étions perdus, condamnés, il nous a fait passer de la mort ou transformer de la mort à la vie surtout, voilà, à la vie. Et ça, c'est formidable. C'est un miracle. Et le plus grand miracle, donc, vous avez entendu, Rodolphe nous a parlé de miracles. Quelquefois, nous, on court après les miracles. Mais le plus grand miracle, c'est ce que je dis toujours, toute ma vie, le plus grand miracle dans ma vie, déjà, c'est mon salut. Parce que j'étais perdu, j'étais condamné. Il m'a fait passer de la mort à la vie. C'est une résurrection spirituelle. Et le plus grand miracle, c'est ça. Parce que, oui, nous espérons d'avoir des miracles, des guérisons, etc., dans notre corps, souvent. Voilà, je suis passé par là, je le sais. Mais le corps, c'est comme une tente. Ça passe tellement vite. On vit dans une tente sur cette terre. Mais l'homme a l'intérieur qui est sauvé pour l'éternité. Donc, c'est un miracle puissant. Voilà. Donc, mon sujet ce matin, fortifie-toi et marche. D'accord ? Donc, nous avons entendu parler de la marche victorieuse, etc. Donc, je vais reprendre encore un extrait de l'histoire d'Élie, le roi 19, verset 7. Le premier roi, bien sûr, 19, verset 7, nous dit, « L'ange de l'Éternel vient une seconde fois, le toucha, donc il a touché Élie et dit, « Lève-toi, mange, car le schéma est trop long pour toi. » Donc retenez ces expressions. Donc déjà, Dieu s'est adressé à Élie la première fois, et il lui a dit « mange », etc. Et puis deuxième fois ici, une seconde fois, deuxième fois. Donc la première fois, il a mangé, puis voilà, et quelque part, il s'est trouvé dans un moment difficile, compliqué, dans un moment de découragement, de faiblesse. Et puis à nouveau, Dieu s'adresse à lui. Donc vous voyez comment ça se passe, c'est que Dieu nous voit partout, Dieu voit nos faiblesses, nos découragements, mais il est toujours là, il est toujours là. Il nous encourage, il nous fortifie aussi dans des moments difficiles, d'accord? Donc il le toucha, il dit « lève-toi et mange ». Donc « lève-toi », « lève-toi », c'est le symbole de se mettre en action. Je me lève pour travailler, pour marcher, pour aller plus loin, d'accord? Donc tout ça, c'est symbolique, mais tellement profond. Et ensuite, le toucha, voilà, vous voyez Dieu, comment ça se passe? On voit un ange. D'une façon ou d'une autre, voilà, le Seigneur nous touche pour dire, voilà, je suis là, je ne t'oublie pas. Et lui dit, lève-toi, donc lève-toi. Et Wilfried, il y a deux semaines, a bien assisté, voilà, lève-toi, qu'est-ce que tu fais ici, etc. Donc, je rappelle, voilà. Et puis donc, n'oubliez pas la question, lève-toi, mange, fortifie-toi, voilà, tu as besoin de la force, donc, et puis, car les schémas est trop long pour toi. C'est-à-dire que si tu ne manges pas, tu ne pourras pas faire 40 jours et 40 nuits sans manger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il fallait qu'il s'équipe d'une force. En se nourrissant, en bien mangeant, voilà, tu auras la force. Mais souvent, ce sont des paroles, quand Dieu parle aux uns et aux autres, et qu'il a parlé à Élie, c'est aussi les paroles prophétiques. Élie ne savait pas vraiment en détail qu'est-ce qui va se passer. Mais finalement, Dieu l'a conduit de telle façon qu'il a dû donc manger. Oui, c'est fortifié, oui. Mais surtout, ne t'arrête pas à nouveau et ne boude pas. Voilà, ne reste pas dans ta fatigue, dans ton découragement, mais maintenant, vas-y, marche! Et il a marché, donc voilà, plus loin, il se leva, mangea et but. Donc manger, Il a mangé et il bu. Donc on va revenir tout à l'heure, parce que je vais aller dans le Nouveau Testament. Manger, c'est une chose, mais sans boire, qu'est-ce qui se passe? Si on mange, on mange, on mange, on mange, on mange, et on ne boit jamais, qu'est-ce qui se passe? Ben vous savez, hein, ça devient difficile. Il faut qu'on mange, mais aussi on boit. Si on boit, on boit, on boit, on boit, toujours on boit, on boit, on boit, et puis on ne mange pas, on ne mange pas, on ne mange pas, ça n'ira pas non plus, hein, dans la vie physique de tous les jours, d'accord? Donc il était question, voilà, de manger. Il a mangé. Il s'est rassasié. Il a bu, et avec force. Et ensuite, voilà, cette expression est très forte. La force que lui donnera cette nourriture, ça va? Quand vous avez faim, puis vous mangez, puis vous avez plus de force, et puis les ouvriers dans le bâtiment, souvent, voilà, ah, j'ai faim, puis voilà, comme ça, on mange souvent pour avoir plus de force, pour continuer les travaux, voilà. Donc, je vous parle de cette force que lui donnera cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Donc, 40 jours, 40 nuits jusqu'à la montagne, jusqu'à le moment où Dieu a tracé ce schéma pour lui. Jusqu'à cette destination de la part de Dieu, et après, donc, l'histoire continue. D'accord? Mais je m'arrête là en ce qui concerne Élie. D'accord? Donc, voilà, mes amis, pour marcher 40 jours et 40 nuits, il nous faut bien manger. Il faut être en forme, d'accord? Même si on jeûne, il faut jeûner vraiment intelligemment. Et surtout, il faut boire, parce que 40 jours, pas manger et pas boire, c'est impossible. Pas manger et boire, ça va encore. Voilà, donc il faut gérer ça. Et donc, nous avons besoin, donc dans cette marche spirituelle, d'accord, spirituelle, nous avons besoin aussi de la force. Amen. Nous avons besoin d'être encouragés. Nous avons besoin de Dieu pour que Dieu soit là. Et si Dieu n'est pas là, il n'y a rien qui se passe. Donc, nous avons, je m'arrête là-dessus, voilà, je souligne que dans la vie spirituelle, nous avons besoin aussi de la nourriture spirituelle. Amen. Voilà, puis on va découvrir la mesure tout doucement. Voilà, Jean, l'évangile de Jean, chapitre 6, et les versets 47 nous parlent de la nourriture spirituelle. Je répète, l'évangile de Jean, chapitre 6, et les versets 47 nous dit, en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est fort, non? C'est tellement court avec Jésus, c'est tellement simple, nous on est quelquefois compliqué. Celui qui croit seulement, il faut aussi étudier, revoir ce que c'est, ce que ça veut dire la foi. La foi reçoit. La foi met en action. La foi agit. La foi, c'est pas juste intellectuel. Voilà. Donc, si tu crois de cette façon-là, tu as la vie, d'accord? En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et puis ensuite, le verset après nous dit, vos pères ont mangé la manne. Pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Ancien Testament, l'Israël se trouvait dans le désert, n'avait rien à manger. Il recevait la manne tombait et il mangeait. Et regardez le résultat de tout ça. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. C'était que la manne pour nourrir quoi? Le corps. Ils sont morts. Et plus loin, c'est ici les pains qui descendent du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Plus loin, je suis le pain vivant. C'est Jésus qui parle. C'est pas la manne. La manne, c'est pour nourrir juste le corps. Hein. Ça va? C'est quand vous allez ici au resto, chez vous, vous achetez à manger, voilà, on se nourrit. Mais ici, on parle d'une nourriture spirituelle. Si on mange, vous allez voir, je suis le pain vivant. Je suis le pain vivant. Quoi? Jésus est le pain vivant? Ben oui, il dit. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Donc Jésus est descendu du ciel, le Père a envoyé pour sauver l'humanité. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra comment? Il ne va pas mourir, hein, mais il vivra éternellement. C'est pour ça, souvent, je répète aux uns et aux autres, les amis, nous préparons l'éternité au présent. C'est maintenant. Je ne sais pas ce qui va m'arriver demain. À toi non plus. Hein. Je sais qu'on ne sait pas. Nous sommes là devant le Seigneur aujourd'hui. Lydie, ça va? C'est Lydie? Lydia, on va prier pour toi. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Oh là là. Quelqu'un qui n'a pas une compréhension spirituelle, écoutez ces paroles-là. C'est ma chair. Quoi? Manger la chair de Jésus? C'est ma chair que je donnerai, voilà, ça explique plus loin, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Et plus loin, c'était juste, ça se termine là, je pense. D'accord. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disaient, comment peut-il nous donner sa chair à manger? C'est normal. Comment? Les Juifs. Ceux qui raisonnaient, réfléchissaient, calculaient toute une philosophie humaine, religieuse, disent, mais comment on peut manger la chair d'un homme, Jésus? Et vous savez ce qui s'est passé, ben Jésus. A donné sa vie sur la croix de Golgotha. Il s'est laissé crucifier. C'était vraiment difficile, charnellement parlant. Crucifié sur la croix de Golgotha. Crucifié. Ensuite, il est ressuscité. Il est mort, mais il est ressuscité. Par sa résurrection, il a brisé la mort. Amen. Il est vivant. Dans le monde entier, il est là. Il est présent. Donc, il a brisé la mort. Donc, nous nourrissons aujourd'hui de son sacrifice par la foi. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas la question de manger la chair. Et je mange cette notion spirituelle, le sacrifice. Je me nourris de son sacrifice. Je suis libéré, purifié, lavé par son sang. Et ensuite, il nous a laissé sa parole. Alors, il y a deux choses. Il y a les Écritures, il y a aussi la parole. Alors, pour ceux qui ont fait la formation ici la dernière fois, on vous a expliqué ce que ça voulait dire, les Écritures. Donc, les Écritures, ce que vous avez dans la Bible, maintenant, on a même dans le téléphone, partout. Voilà, c'est écrit. Écrit. Et on essaye d'écrire les Écritures, la parole de Jésus. Et souvent, il y a des fautes dans les traductions, dans les incompréhensions. Il y a des traducteurs qui passent des heures, des jours, des mois, quelquefois, pour traduire la parole de Dieu. Mais comment on va écrire les Écritures? Comment on va écrire ce que Jésus a voulu dire? Mais le salut veut dire quoi? Vous voyez? Le pardon veut dire quoi? On essaie de faire les Écritures, on écrit, mais ensuite, ça dépasse même les Écritures. Donc, nous nous nourrissons de la parole de Dieu. Donc, le premier verset que nous avons projeté ici, si tu peux revenir en arrière. Donc, c'était 47, hein, c'est ça? Voilà. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit, comment expliquer la foi à ceux qui ne croient pas? Comment vous avez géré cette situation quand vous n'étiez pas encore chrétien, pas encore converti, vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, et on vous a dit, celui qui croit en moi a la vérité. Comment définir la foi? Que c'est juste plus que l'écriture. C'est aussi une révélation, parce que la foi, c'est un don de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Le don de Dieu, on vous a dit, on vous a parlé, c'est les Écritures, mais les Écritures veulent expliquer mieux possible la parole de Dieu. La foi, c'est quoi? Donc c'est tellement, tellement, tellement profond. Qui croit en moi à la vie éternelle. Donc la parole de Dieu, nous nous nourrissons, nous nous laissons nourrir par la parole de Dieu. Amen. Vous lisez, c'est écrit, mais c'est encore plus profond ce que les Écritures disent. On a chanté tout à l'heure, le Saint-Esprit est là. Et si je m'arrêtais maintenant et je vais vous poser la question même entre nous, qu'est-ce que tu penses? Ça veut dire quoi, le Saint-Esprit est là? Et toi, qu'est-ce que tu penses? Et toi, qu'est-ce que tu penses? Mais le Saint-Esprit, c'est qui? Et on peut poser des questions, mais le Saint-Esprit, on les ressent comment? Mais le Saint-Esprit fait quoi? Mais c'est quoi le Saint-Esprit est là? Et c'est bien ce que nous avons chanté, parce qu'en même temps, je me suis dit, à la fin, on va prier ensemble, et on ne va pas dire, Seigneur, envoie ton esprit! Nous avons déjà chanté, le Saint-Esprit est là. Amen. Est-ce qu'il est là?
Oui.
Alléluia. Ben, il est là parce que vous avez le sourire. Parce qu'il vous a transformé, il vous a touché, il vous a accordé une révélation de la vie éternelle. Alors comment expliquer tout ça? Il faut le vivre. Amen. Par la foi. Oh là là. Donc voilà le Saint-Esprit là. Alors comment on va nourrir notre foi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Hein. Quand vous allez regarder, actuellement on parle beaucoup de guerre. Hein. On regarde. Moi au début je regardais un peu plus, là j'ai un peu diminué. Je voulais vraiment savoir, juste savoir ce qui se passe, comprendre un peu les questions d'Israël, etc., toutes ces histoires-là. Et puis après, la nuit, je rêvais même la guerre. Il y a des gens qui se tuaient dans mon dos. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça nourrit notre esprit, voilà, toutes ces histoires-là. Et puis il dit, Seigneur, oui, je vais savoir, parce que je ne vais pas fermer les yeux. Voilà, je vais prier, je vais savoir ce qui se passe dans le monde, mais en même temps, tu me libères ça. Donc, je nourris ma foi de la parole de Dieu. Je me lève, Seigneur, merci, je suis encore là. Seigneur, merci pour la vie. Merci pour la foi que tu m'as accordée, parce que c'est un don de Dieu. Et c'est à moi maintenant à nourrir la foi, pour que la foi puisse avancer, grandir, que je puisse saisir de plus en plus de bénédictions par la foi au nom de Jésus pour la gloire de Dieu. D'accord ? Donc voilà, comment nourrir notre foi, pour que notre foi soit solide, pour qu'on ne s'arrête pas comme Élie. Il s'est arrêté, il passait du temps, il était découragé. Et puis finalement, il fallait marcher. Le chemin est trop long. Si je ne mange pas, 40 jours, c'est impossible. Ces 40 jours symbolisent notre vie, la marche, avec Jésus. Amen. Et nous avons besoin de consolider notre foi. Alors la foi est consolidée comment? Par les billets d'une église. Déjà, je vous ai dit, je me réveille, vous vous réveillez, on prie, on pense, on réfléchit, Seigneur. Voilà. Ensuite, ce matin, on s'est réveillé, Seigneur, je vais honorer. Je vais t'honorer, je vais t'élever. Ce n'est pas juste acte de présence, pour faire acte de présence. Ce n'est pas pour que les autres puissent dire, ah ben il était là aujourd'hui, il était là. Non, c'est plus que ça, c'est tellement personnel. Je suis là, Dieu, pour toi. Quelquefois, on est habitué, vous comprenez, on est habitué. On a l'impression que c'est un culte, bon, voilà, c'est quelque chose qui est normal. Mais j'ai déjà parlé plusieurs fois avec des personnes qui me disaient, je suis entré dans la salle pour la première fois. Et je ressentais quelque chose. Il ne sait pas écrire. Il ne sait pas définir. Mais nous, on comprend une présence de Dieu. Dieu est là avant le culte. Amen. Il y a des gens qui ne résistent même pas parce qu'ils viennent avec des péchés, avec des imperfections. Ben, le monde est comme ça. Nous sommes sortis de là. Et puis on rentre là. Et puis la présence de Dieu, ils sont saisis par la présence de Dieu. C'est tellement fort. Donc, l'Église est comme un restaurant. Vous savez, quand on reçoit des invités, des prédicateurs et tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend soin d'eux. Nous, on est là, on écoute, on est heureux parce que le prédicateur vient d'extérieur et quelquefois, bah, il dit la même chose que nous, mais nous, vous êtes habitués avec nous, donc vous prenez 30%, mais un invité, vous prenez 80%. C'est comme ça, non? Sauf Pierre, hein? Voilà, donc vous voyez, qu'est-ce qu'on fait? Ben on les accueille, on les nourrit. On les nourrit. Vous les nourrissez parce que voilà, vous participez aussi. Nous, on ne peut pas soutenir toutes les charges, toutes les dépenses. Je suis transparent avec vous. On les nourrit parce qu'ils ont besoin d'avoir la force. Amen. Mais sur le plan spirituel, les prédicateurs nous apporte la bénédiction, la nourriture spirituelle. Les prédicateurs, les personnes qui travaillent à l'Église nous apportent la nourriture spirituelle. C'est comme un resto, je répète. Alors, vous avez pas mal de choses maintenant. Ce matin, on se retrouve avec quelques-uns à la prière. Et quelques-uns qui viennent ici pour bien maîtriser la musique, les chants, etc. Vous voyez, il y a un programme pour ne pas faire n'importe quoi. Ça va? Il y a des fondamentaux, des formations. Nous avons rencontré une personne ce matin parce que cette personne elle avait besoin de partager des choses avec nous, Christian et moi. On est là, comme des conseillers. Comme je dis ce matin, tu sais, c'est pas parce que tu vas faire ça pour Dieu, pardon, pour l'Église ou pour une religion ou quoi que ce soit, mais c'est devant Dieu. Il faut que je sois en règle avec Dieu. Combien de fois, quand nous rencontrons des situations compliquées au niveau de mariage, le mariage, toutes sortes de problèmes, de situations, chaque fois j'ai dit, Seigneur, je n'aimerais pas me tromper. Même si je me trompe, c'est déjà pas bien. C'est pas fait exprès, mais j'aimerais pas me tromper. C'est juste, si je me trompe et je donne un mauvais conseil, on dirige les gens vers la mort. C'est pas bon ça. Alors Seigneur, aide-nous. Seigneur, donne-nous la sagesse pour pouvoir mieux aider, résoudre les difficultés, les combats, etc. Il y a la question, les enfants, les familles. Il y a tellement de problèmes partout, Seigneur. Ah ben, l'Église est un resto, nous nourrit spirituellement pour mieux résister contre les attaques diaboliques. Amen. Vous savez, quelquefois, quand il y a des personnes qui ont des problèmes, des difficultés, souvent on s'enferme en nous-mêmes, voilà, comme Élie. Comme Élie, on s'enferme comme ça, nous-mêmes, et on ne veut rien dire, il ne faut surtout pas que j'annonce à quelqu'un, comprenez? Mais finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? On est là, l'Église est là, il faut souffrir. Oui, vous voyez, quand j'étais hospitalisé, j'avais vraiment pas de force, vous voyez ma mort, la mort devant mes yeux, et Christiane, elle n'avait rien à cacher, elle vous a tout dit. Parce qu'on a besoin de vous, tous, les uns et les autres. Au lieu de cacher. Et quelquefois, il y a des personnes qui luttent tout seules. C'est leur choix. On lutte tout seul, on combat tout seul. Et puis ensuite, on découvre à la fin la catastrophe. Et puis on dit, pourquoi tu ne nous as pas partagé ton combat? Ta difficulté. On est là ensemble pour serrer les coudes, pour se nourrir, pour fortifier notre foi, pour aller plus loin. Donc vous voyez, l'Église est là pour, comme un restaurant, pour nous nourrir spirituellement. Alors il y avait ici le rassemblement de jeunes. Et puis à la fin, on a fait un appel et puis il y avait 9 personnes qui se sont approchées. 9 jeunes. 9 jeunes. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit merci Seigneur. L'Église a répondu aux besoins. Pour briser quelqu'un, même si sur ces 9 personnes. Bon, après, à la fin, il y avait encore une personne qui est venue me voir. Ça faisait parce que le Seigneur m'a donné un chiffre 10. Et Au moment de l'appel, il y en a un, deux, trois, puis après, ça s'est un peu stabilisé, puis j'oubliais le chiffre 10. Et après 5, 6, 7, ah ben, j'étais pas loin de 10. Alors le 10, à nouveau, bah ! Ah donc ça va, on va arriver à 10. C'est pas la question de chiffres, mais chacun compte. Jésus est mort pour chaque personne, pour 8e, pour 9e, pour 10e, amen. Et moi j'étais peut-être 10e aussi à un certain moment. Dieu m'attendait. Et puis il y avait 9. Et dans mon cœur, je me suis dit, Seigneur, mais j'ai reçu le chiffre 10. Et après, à la fin, il y avait 10e. Et j'étais heureux. Et j'étais content. Pourquoi je vous dis ça? Nous nous nourrissons de la nourriture spirituelle pour pouvoir marcher et communiquer la vie à qui? Aux autres, ceux qui n'ont pas la vie. Amen. Par toutes sortes d'activités. Actuellement, cette semaine, Thierry, avec toute une équipe, plusieurs personnes, je pense même d'ici, ils font l'évangélisation à Roubaix pour une église. Et puis hier, ils avaient une réunion, puis ce matin, un culte, certainement, d'évangélisation. Voilà, l'église est active. Vous voyez, l'église est en marche. Même si Thierry rentre dans sa cave pour prier, mais à un moment, il sort de la cave pour aller annoncer la bonne nouvelle. Il ne fait pas comme Élie. Élie était là, et puis Dieu là. Lève-toi ! Ah ben la même chose. Le Seigneur nous interpelle. Peu importe le talent, il y a tellement de talents ici actuellement. Des musiciens, des chanteurs. Vous comprenez, moi, quand on a ouvert l'église, quand j'étais jeune, je chantais vraiment mal. Je chante toujours mal. Terrible. Mais je devais chanter, je devais prêcher, je devais prier, je devais chasser les démons, je devais tout faire. Parce que Christiane avait été avec les enfants. Et après, elle a dit, je vais t'aider. Et tout à coup, voilà, il y a d'autres qui se sont ajoutés. Vous savez, il y avait quelques musiciens. Et moi, j'ai commencé à chanter. Puis j'ai dit, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Et puis je regardais les musiciens. À quel moment? Et puis les musiciens me disent, il a ouvert la bouche. Tu commences là. Je ne savais même pas à quel moment commencer. Il joue, il ouvre la bouche. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Vous comprenez? Voilà, l'œuvre de Dieu grandit. Pour que nous soyons efficaces, pour sauver, bon, je cite n'importe quoi, Pierre, bah, symbolise tout le monde. C'est parce que c'est Sylvie, toi. Non? C'est Cécile! Oh. Tu vois, je me trompe. Allez. Cécile, Anne, voilà. L'Église est là pour ça. Amen. Joanne, l'Église est là pour ça, pour nous sauver, pour communiquer la vie. Et moi, je reçois aussi. C'est formidable. Donc, je reviens à cette expression de Rodolphe qui disait que Jésus nous a transportés de la mort à la vie. Et ça, c'est un grand miracle, le plus grand miracle, et nous réjouissons, d'accord? Et nous voulons communiquer la vie autour de nous. Vous savez, hier, par téléphone, tout simplement, très loin, 600 kilomètres, peut-être plus, même 700 kilomètres d'ici. Je réunissais deux couples qui se cherchent, qui sont perdus. Ils nous ont dit, on a mangé avec eux il y a quelques semaines, on est perdus. Et il y a un appel sur eux. Et le temps passe. Et on construit rien. Les outils restent dans le garage, sans le mettre en action, au travail, etc. Puis voilà, en téléphone, on se parle. parce que même si ce n'est pas moi qui vais aller communiquer là-bas sur place, mais c'est parce que je peux encourager un groupe, quelqu'un d'autre, à aller plus loin, annoncer l'évangile. Il y a un jeune homme qui m'a téléphoné ici il y a 2-3 jours. Monsieur, comment ça va chez vous avec le baptême? J'aimerais prendre mon baptême. Alors j'ai dit, vous êtes où? Oui, il est par là, à Rennes, autour de Rennes, mais il vient chez ses parents ici souvent. Il dit, j'aimerais tellement prendre mon baptême. Je lui ai dit, je comprends. Tu as compris que le baptême, c'est important, c'est une promesse, c'est un engagement. Voilà, c'est comme un mariage avec Dieu. Oui, mais l'essentiel, c'est avant de prendre le baptême, il faut accepter Jésus. Il faut accepter Jésus. Donc vous avez vu, hein, ici, vous avez entendu. Voilà, ceux qui croient. Ou j'ai lui cité aussi ce verset, crois, tu crois, tu seras baptisé, tu seras sauvé. La foi, le baptême, le salut. Alors je l'ai encouragé. C'est dommage que ce n'est pas plus près parce que j'aurais déjà été le baptisé sur place. Pourquoi pas? Bon. Mais je vais les conduire dans une autre église. Voilà, nous communiquons la vie. Allez là, là. Et s'il n'y a pas longtemps, la même chose par téléphone. Ah ben, c'était une dame qui est venue de Lyon habiter. Elle me téléphone. Je lui ai donné le conseil. Je communique. J'ai quelque chose à lui dire. Amen. Alléluia. Puisque nous sommes une église. Et l'église est un resto. Et puis on t'invite à un resto. Sinon, il y en a d'autres. Plus près de chez toi. Amen. On va se lever. On va acclamer le nom de Jésus. Ensemble.